J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena, tient à l'uniformisation de bulletins scolaires sur l'ensemble de la RDC à la fin de cette année scolaire. Pour le ministre, cette décision vise à lutter contre la circulation de bulletins pirates qui occasionnent la fraude dans les secteurs et cela au détriment de l'enseignement. Ces bulletins qui sont obligatoires seront distribués à travers le pays en commençant par la province, ville de Kinshasa. Certains observateurs saluent cette initiative. Une autre opinion estime que, vu l'immensité du pays et des contraintes techniques, cette opération risque de préjudicier les écoles et provoquer du retard dans la publication des résultats scolaires. Qu'en pensez-vous? Nos deux lignes sont déjà ouvertes pour vous accueillir. 081-890-63-80 et 081-890-49-69. Rejoignez-nous également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. André Mongou est à la technique, Nico Kalambay à la réalisation de cette émission que vous présente Pierrot et la Mégie sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour comprendre et en savoir plus, nous avons en ligne Monsieur Michel Djamba, inspecteur général de l'EPSP. Monsieur Michel Djamba, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Michel Pierrot.
Est-ce que c'était une nécessité aujourd'hui d'uniformiser les bulletins scolaires?
Oui, oui. Commençons par l'historique de cette uniformisation de bulletins. Vous savez que nous avons connu des difficultés conjoncturelles il y a quelques années, qui faisait que les bulletins scolaires n'étaient plus disponibles partout et dans les délais. À la place, les écoles, les chefs d'établissement remettaient à leurs élèves des bouts de papier sur lesquels il était mentionné l'élève tel a obtenu tel pourcentage et passe de classe. Chose inadmissible, parce que cette pratique ne mettait pas en exergue la valeur pédagogique du bulletin. À savoir, le bulletin lui-même, il sert d'interpellation à l'apprenant et le bulletin scolaire stimule l'apprenant et ses proches. Donc, je disais que c'était une situation inadmissible et pendant cette période-là, il y a eu des gestionnaires d'école qui avaient pris des initiatives pour pouvoir imprimer les bulletins dans leur réseau. Conséquence, plusieurs modèles et des quantités difficiles à contrôler. Et le surplus alimentait les réseaux des faux bulletins et favorisait les passages irréguliers des classes et surtout le phénomène des élèves migrateurs. Des élèves qui, durant leur cursus, passaient d'une école à une autre avec un bulletin différent venu d'un autre bulletin, d'une autre école. Cela a agi négativement sur la qualité de l'enseignement tant recherché. Et aujourd'hui, c'est le retour à la norme, où le gouvernement disponibilise 20 millions de bulletins à modèle unique et se charge de les expédier d'ici le 15 mai au chef-lieu de chaque province. À ce jour, M. Pierrot, nous avons déjà livré les quantités pour Kinshasa, le Congo central, l'ex-Bandundu, tandis que l'Ituri et les Maniema sont en train d'être servis au moment où nous parlons. Voilà un peu l'historique de l'histoire des bulletins.
Mais est-ce qu'il y a eu un moment où on a été perturbé? Quelle a été l'expérience des bulletins uniformes dans l'histoire de notre enseignement?
Oui, dans l'histoire, vous vous souviendrez qu'avec l'ex-Samafos, il y avait des magasins témoins dans toutes les provinces et chaque gestionnaire pouvait bien s'approvisionner dans les délais auprès de Samafos et il n'y avait pas prolifération de fausses pièces scolaires comme c'est le cas maintenant, où il suffit qu'un enfant échoue dans une école, les parents vont au coin, ils achètent un bulletin, on le remplit et ils passent des classes. Auparavant, il n'y avait pas ce système. Mmh. Et nous voulons rentrer aujourd'hui, comme je vous ai dit, à la norme.
Mais faudrait-il aujourd'hui qu'au niveau du ministère, qu'on ait la maîtrise effective de toutes les écoles, vu le nombre d'écoles aujourd'hui à travers le pays, ainsi que l'effectif des élèves?
Oui, oui, il y a un travail qui a été fait en amont au niveau de chaque division provinciale. Ce sont les divisions provinciales qui nous ont livré les statistiques. Et c'est sur base de ces statistiques que nous avons procédé à l'impression de ces 20 millions de bulletins. Mmh. Donc toutes les écoles seront servies, aussi bien des écoles publiques que des écoles privées agréées.
Et avant d'écouter les auditeurs, quelle est la garantie aujourd'hui au niveau de la sécurisation de cette pièce? Y a-t-il de mécanismes pour qu'il soit sécurisé et qu'elle ne soit plus aussi piratée? On sait comment, avec l'informatique, tout ce que les gens sont capables de faire aujourd'hui.
Oui, le bulletin d'aujourd'hui, je vous dis que c'est un bulletin imprimé sur papier spécial. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, c'est un papier spécial qu'on appelle le papier couché, papier brillant, avec un fond d'armoirie. Dès que vous le regardez, il y a des armoiries qui scintillent. Et pour les niveaux secondaires, général, les humanités, toutes options confondues, c'est un bulletin de couleur verte, citron, doré, bulletin doré, papier doré, donc dont la contrefaçon serait assez difficile. Ce n'est plus le papier duplicateur qu'on pouvait acheter au coin des rues ou le papier Bristol ordinaire qu'on pouvait acheter au coin des rues. Hein. Mm-hmm. C'est un papier fortement sécurisé que nous avons utilisé cette année.
Voilà, on va revenir à vous, inspecteur Michel Djamba. On ouvre les standards 081-890-6315. Votre point de vue, votre contribution autour de cette initiative d'uniformisation de bulletins. Maître Adrien, merci d'être avec nous de Kananga. Vous avez suivi toutes les précisions données en introduction par notre invité. Quel est votre point de vue, maître? Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à monsieur Michel. Je pense que l'idée peut apparaître géniale.
Oui, maître Adrien, pourriez-vous tout simplement, maître Adrien, s'il vous plaît.
Donc de tous les bulletins, oui. Sur toute l'étendue de la ville de Ouattara du Congo.
Oui, maître Adrien, je sais que... Oui, maître Adrien, s'il vous plaît.
Je suis vraiment contre cette idée, c'est lorsque moi j'estime qu'on pouvait peut-être donner cette offre aux entreprises congolaises. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'Improca, hein, l'imprimerie de Kananga sur place. C'est une industrie qui est aussi spécialisée en fabrication de bulletins, parce que la plupart de bulletins donc fabriqués ici à Kananga et au Kasai, c'est cette industrie qui les fait. Pourquoi aller toujours à l'étranger pendant que nous avons donc des Congolais qui font mieux donc ce genre de travail? Donc là, c'est la première observation. La deuxième observation, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le ministère est vraiment convaincu qu'avec le temps qui nous reste, ça sera possible pour qu'on puisse dispatcher tous ces bulletins-là jusqu'au fin fond donc de notre territoire? Est-ce que ça ne sera pas une question de centres urbains et le milieu rural risque vraiment de connaître cette uniformité pour l'année scolaire de l'année donc de l'année prochaine? Ce sont là les quelques inquiétudes que tout le monde est en train de se poser autour de cette idée qui est à mon humble avis bonne, mais qui vient vraiment tardivement, Pierrot.
Merci beaucoup, maître Adrien. Vous estimez que l'idée est géniale, mais deux observations par rapport à l'impression. Pourquoi ne pas confier cela aux entreprises congolaises plutôt que le faire à l'étranger? Mais par le temps qui court, pensez-vous qu'on soit capable de pouvoir distribuer le bulletin sur l'ensemble du pays? Merci. On reste ici, on retourne ici à Kinshasa avec vous, Malonga. Bonjour. Malonga, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on vous écoute.
Ok. Bon, là, l'idée de l'uniformiser les bulletins dans toutes les écoles de l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est bon. Mais pour moi, je vois que c'est le début. puisque l'enseignement en République démocratique du Congo est déjà vraiment biaisé et déjà foutu. Alors, ce qui est très important encore au Pérou, le bulletin sera uniforme, oui, c'est bon. Mais vous l'avez bien posé là-bas, que la technologie vraiment est très avancée. Les informaticiens sont là. Ils peuvent pirater aussi, même l'inspecteur a dit les qualités des papiers, mais ça peut être aussi possible à ces informaticiens. Mais pour moi, je vois qu'il faut qu'il y ait une équipe dans chaque inspection, dans chaque direction, s'il vous plaît, de contrôler, puisque ces systèmes de pirater et ces systèmes de fraude, hein, de faire passer les élèves qui n'ont pas eu vraiment le point satisfait, c'est déjà habituel. Moi, je vois ceci, l'inspection générale de l'enseignement primaire et secondaire doit organiser le KIP ou bien doit créer un mouvement de contrôle sérieux, s'il vous plaît. Puisque aujourd'hui, le système de palmarès, en tout cas, n'existe pas. Si l'enfant reste ici et il se déplace dans une école, le bulletin ne peut jamais contrôler encore le palmarès. On le reçoit et on le fait inscrire. Est-ce que ce système de palmarès a été suspendu? Pourquoi? C'est ce que je demande à l'inspecteur là-bas.
Ok, merci.
Je vois que les directeurs aussi doivent être, et les préfets doivent être très instruits, puisque c'est eux les promoteurs. Pourquoi le préfet peut accepter un bulletin qui ne sait pas vraiment l'origine? Ou bien on écrit la mention là-bas, sans attirer le surcharge. Mais si le bulletin aussi est surchargé, vous verrez que les directeurs et les préfets acceptent l'enfant si on lui donne seulement de l'argent, et puis l'enfant reste comme ça et il passe. Raison pour laquelle aujourd'hui l'enseignement est vraiment abîmé. En tout cas, merci pour l'initiative.
Merci.
Mais c'est le début, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Malonga. Vous avez voulu savoir en termes de sécurité, des surcharges. C'est pour cela aussi que l'inspecteur pourra nous dire s'il y a des surplus, hein, pour voir au cas où il y aurait eu une erreur sur un bulletin, qu'on puisse pouvoir donner à l'enfant élaborer un autre. Et d'un côté, vous vous posez la question si aujourd'hui on a encore les palmarès dans les écoles, ce qui permet de pouvoir retracer le parcours de l'élève. Merci beaucoup, Malonga. Dieudonné, vous êtes à Mahagi. Bonjour Dieudonné.
Bonjour Radio Capi, bonjour aussi à l'invité.
Merci, on vous avez rejoint les autres compatriotes autour de cette question de bulletin uniformisé. Quel est votre point de vue?
En tout cas, j'ai salué la décision du ministre, quand bien même il est à Paris, puis récent à circuit au ministère, mais j'ai aussi quelques préoccupations et ma crainte, Annie, que vu le temps, uniformiser le bulletin, c'est bien. Mais vu le temps qui reste, est-il vrai que le 2 juillet, il peut y avoir que chaque enfant doit détenir, chaque élève, c'est-à-dire doit être en possession de son bulletin? C'est ça ma première question, parce que il y a des espaces et je ne sais pas même si le ministère a réellement la maîtrise exacte de l'effectif, quel que soit même des élèves, et même il y a des écoles, à mon humble avis, qui sont peut-être même non reconnues, mais qui sont là en train de fonctionner. Alors, on ne sait pas, à vouloir résoudre ce problème, je crois que ça peut aller dans des milieux comme Kinshasa, et peut-être dans des grandes villes, mais dans le point véhiculé, je suis encore pessimiste et j'ai des doutes. C'est pour cela que je voulais juste poser la question à l'invité. Réellement, est-ce qu'ils sont conscients? Ils sont conscients que le 2 juillet, nos enfants, c'est-à-dire les élèves, peuvent être en possession de ces bulletins uniformisés. C'est ça ma préoccupation.
Merci beaucoup, Dieudonné. Nous retournons du côté de notre invité, Michel Diamba, inspecteur général de l'EPSP. Vous avez suivi les trois compatriotes qui se sont exprimés autour de cette question. Quel est votre point de vue par rapport à leurs préoccupations?
Merci beaucoup, Pierrot. Je suis très content. Notre ami Adrien dit que c'est une idée géniale. Malanga dit que c'est bon, notre ami Guédoné, il salue l'initiative, mais tous ont des inquiétudes par rapport au temps de livraison de ces bulletins. Nous avons dit que d'ici le 15 mai, tous les bulletins seront déjà au chef-lieu de chaque province.
et des instructions ont été données aux directeurs provinciaux de pouvoir acheminer ces bulletins dans les délais vers les sous-divisions. Et chaque chef de sous-division vers les écoles de sa juridiction. Imaginez-vous, Pierrot, comment est-ce que nous arrivons à faire passer l'examen d'État? L'examen d'État n'a jamais connu un retard. L'État n'a jamais connu un retard. C'est le même canal de transmission que nous allons utiliser pour envoyer ces bulletins dans les chefs-lieux. C'est-à-dire que est-ce que chaque enfant aura un bulletin à la fin le 2 juillet? J'ai dit affirmatif parce que ce ne sont pas ces bulletins que... Disons, ces bulletins, ce sont des bulletins propres. Et dans l'entretemps, les enseignants ont ce que nous appelons le bulletin brouillon. Ils sont en train de remplir déjà au monoplan, première période, deuxième période, premier semestre, deuxième semestre, les points sur le bulletin brouillon. À la fin de l'année, la dernière semaine de juin, ça sera un travail mécanique de transcription des points du bulletin brouillon vers le bulletin propre qui sera supposé être dans ces écoles au plus tard le 15 mai. Nous pouvons même aller jusqu'à la fin du mois de mai. Tout le mois de juin, ils auront une marge de manœuvre pour pouvoir acheminer le bulletin au niveau de chaque école. Donc je vous dis que c'est faisable. Par rapport à notre ami Adrien, il dit, bon, on a utilisé des privés, il fallait aller à une province, mais ces privés restent privés. Mais l'impression est faite par l'imprimerie de l'inspection générale, que nous appelons l'IG. C'est l'IG qui a imprimé ces bulletins. Ce n'est pas un privé, c'est dans les prérogatives de la loi que l'inspection générale de l'enseignement a imprimé ces bulletins. L'imprimerie de l'inspection générale, ce n'est pas une imprimerie privée. Voilà.
Mais alors, parce que vous avez évoqué, rappelons quand même que l'impression a un coût, les transports, la même chose, les modalités, c'est comment les frais des ces bulletins sont-ils incorporés dans les frais que les enfants doivent payer, parce que imprimer plus de 20 millions de bulletins, les transporter à travers le pays, il y a quand même un sacré coût à payer.
Oui, il y a une circulaire de son excellence qui sera adressée au gouverneur de province. Le tout sera fixé à ce moment-là. Là, je réserve la primaire à son excellence, monsieur le ministre.
Voilà, on va écouter Jean qui est ici à Kinshasa, maître Serge Akaminan. Jean, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, notre invité.
On vous écoute, Jean.
Merci beaucoup. Je pense que l'inspecteur n'a pas répondu à votre dernière intervention. Moi, je salue tout en saluant l'intervention de monsieur le ministre d'avoir uniformisé les bulletins sur toute la République. Mais ce qui m'intéresse, c'est le coût à payer. Vous vous souviendrez que dans la note circulaire de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, numéro 090/CM/BB/2016 du 8 août 2016, portant sur la clé de répartition des frais de scolarité 2016-2017, il est dit ceci, que le frais de bulletin est fixé à 250 francs. Pour l'école primaire et maternelle, secondaire générale, scientifique, sociale, commerciale, technique agricole, technique industrielle et professionnelle. Mais je suis très surpris de constater que, en tant que parent, dans l'une des sous-divisions, on nous a lu la lettre du ministre fixant le prix du bulletin à 1000 francs. Monsieur le journaliste, pensez-vous à ces temps qui courent, monsieur le gouverneur fixe à 250 et le ministre ajoute 1000 francs. Est-ce que c'est raisonnable? Combien les gouvernements ont ajouté pour les salaires des parents? Et s'il faut ajouter 1000 francs, comment les parents vont considérer les écoles? Moi, je pense qu'en tant qu'un gouvernement responsable, s'ils veulent vraiment que ce bulletin soit prenne d'accord, si vraiment le gouvernement a le souci des parents, que les bulletins soient distribué à titre gratuit, tout simplement, et que le gouvernement prenne le coût de tout ce qu'ils ont inventé, parce qu'ils pouvaient faire sur les imprimeries locaux, mais pourquoi aller à l'étranger et pourquoi abroger, cracher sur ce que le ministre, cracher sur ce que monsieur le gouverneur a déjà signé. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup Jean. On pourra revenir à notre invité. L'autre invité nous a dit qu'il le réserve la primeur du coup au ministre qui devait adresser un arrêté au gouverneur. Mais vous vous dites que le comité des parents vous a déjà communiqué qu'il faut 1000 francs pour ces bulletins. La question de l'impression à l'étranger, l'invité nous a dit tout à l'heure que c'est l'imprimerie de l'inspection générale qui a imprimé ces bulletins. Où on aura toutes ces précisions d'un moment à l'autre. Maître Serge, vous êtes à Kamina. Bonjour et merci d'avoir rejoint la parole aux auditeurs.
Alors bonjour M. Pierrot, bonjour aussi à tous les auditeurs de notre radio de la paix.
On vous écoute maître.
Et moi bon, uniformiser cela ne suffit pas. Il aurait fallu aussi vraiment s'étaler sur le salaire des enseignants pour améliorer. Il a parlé de l'amélioration des droits du niveau des filles. Sinon, je vois, et même celles-là qui sont en train de falsifier ou d'imiter la signature avec les faux bulletins, qu'est-ce qu'on a déjà fait d'eux? Et après les avoir arrêtés, on va voir, non, il est ami ou un frère, un enfant d'un frère, d'un ministre ou rien qui comme ça, et on laisse passer. L'impunité conduit à cela. Voilà, il y a même des contrefacteurs qui font de telles histoires, on n'a jamais puni, on ne condamne pas. Et je voulais un petit prophétisme. Je vois ici, chez nous, on savait même, il y a les finalistes, qui payent 60 quelques mille francs, hein, pendant qu'il y a les parents qui coupent les doigts pour seulement supporter leurs enfants. Et le gouvernement est là, calme, on ne tient même pas compte de tout ce qu'on peut produire dans telle province. Ici, c'est une province qui est vraiment enclavée, qui n'a rien. Nous regrettons. Et puis, et sur cela, il fallait peut-être mettre les gens là avec qui il fallait travailler ensemble pour dénicher ceux-là qui ont. Il y en a qui ont des faux bulletins. Même là, je vous assure qu'il y en aura. Tant qu'on n'a pas encore une mesure stricte sur ça, vous aurez toujours des sons de gloire de l'autre côté là.
Merci beaucoup, M. Serge. Vous estimez que l'unique moyen d'arrêter la contrefaçon ou bien la fraude, c'est de pouvoir sanctionner ceux qui sont concernés, même pour des nouveaux bulletins. S'il n'y a pas des sanctions, ça sera difficile de pouvoir contrer la fraude. On retourne à Kinshasa avec vous, Omar. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierre Lamégé, bonjour à tout le monde.
On vous écoute, maître.
Merci beaucoup, Pierre, de voir que vous m'abusez. Je vous remercie. Je crois que maître Adrien avait dit que la décision était géniale. En poursuivant, la décision est bonne. Moi, je pense qu'elle est salvatrice et salutaire. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Si aujourd'hui nous scriptons la réalité, l'une des causes qui fait que notre enseignement soit rabais, c'est aussi cette transcription des faux bulletins. Il était donc impérieux, voire nécessité qu'on puisse prendre une telle mesure. Mais je suis très d'accord. Mais je pense que cette mesure n'aura de sens que si elle est accompagnée d'un contrôle sérieux. Le rôle de l'inspecteur de l'enseignement n'est pas de rester dans son bureau climatisé, de faire des émissions, mais c'est de contrôler et de faire le suivi des décisions prises. C'est vrai qu'on peut faire uniformiser tout le bulletin pour éviter la corruption, la contrefaçon, mais si on ne sait pas descendre sur terre et contrôler si ce bulletin n'est pas occupé, je pense parce que la piraterie a tellement été évoluée, les informaticiens ont développé des techniques. S'il n'y a pas un contrôle sérieux au niveau de chaque école, je crois qu'il y aura tout de problème. Mais je pense que cette problématique soulève aussi la question de la qualité de l'enseignement. Il y a un autre problème aujourd'hui, il faudra qu'on se le dise. Le problème aussi, n'est-ce pas, de déclamer des cas comme il s'approche. C'est vrai que la thématique aujourd'hui ne parle que des phobies, de ce que nous saluons, mais je pense que ce n'est qu'une goutte de l'eau dans la mer parce que l'enseignement est un problème épuisé. Qui regorge beaucoup de réalités. Je voudrais que le secteur général touche votre volonté. Il y a une réalité qui est une très grosse dans les provinces sur les problèmes de la contrefaçon, de la corruption, n'est-ce pas, les gamins d'État. C'est très courant, c'est très vécu, mais on a comme l'impression qu'on n'en tient pas compte. Le mec, on a fait la décision qui a été prise. On veut qu'on puisse avoir des mesures de suivi et de contrôle. Mais je félicite, pour dire dans le message d'inspecteur, il y a une réalité aujourd'hui. Il y a des examens d'État qui sortent, même avant, n'est-ce pas, qu'il y ait examen proprement dit, parce que la dette est prévue par le gouvernement. Alors, je veux seulement savoir, quelles sont les stratégies qu'on a prises pour éviter ces phénomènes? La conclusion aujourd'hui, c'est quoi, Pierre? Les enfants, on a déjà parlé, mais au-delà de tout, l'une des causes qui fait qu'on soit sur AB, il y a des élèves qui sont des thèmes et qui ne savent pas les défendre. Pourquoi? Ils ont 82%, 70%, mais on ne sait pas comment ils ont obtenu. Il faudra vraiment qu'on puisse renforcer. Et je disais, n'est-ce pas, à M. l'inspecteur, c'était une question que je voulais poser. Quelles sont les stratégies cette fois-ci qu'on a prises pour éviter ce phénomène? Où les examens d'État sortent avant même d'être prévus?
Voilà. Merci. Merci beaucoup, maître Omar. Mais on ne saura pas aborder toutes les questions qui sont liées au secteur des renseignements dans une seule émission. Nous avons pris l'angle bulletin aujourd'hui, mais vous avez estimé que la question de la qualité soit évoquée. Ça peut être un autre débat dans une émission, mais parce que nous sommes dans l'actualité de l'examen d'État, vous vous êtes inquiété. Vous avez souhaité que l'inspecteur nous dise s'il y a des stratégies qui ont été mises en place pour éviter ce qu'on a toujours entendu. Que l'examen aurait été en circulation avant la date des passations. Merci. On va revenir à notre invité. Je rappelle que vous pouvez intervenir aussi au 081-890-63-80 et 081-890-49-69. Ingénieur Bâtier, vous gardez la ligne, vous êtes à Kisangani, on va revenir à vous.
Wandugu, wakaka, wadada, wapenzi, wamama na wababa, operesheni ya kuandika wachaguzi inakaribia mwisho. Endeni haraka kuziorozesha sawa wachaguzi katika vituo vya seni vya karibu ya makao yenu, mtaani wala mkoani mnamoishi.
Ni vitambulisho gani unapaswa onesha wakati wa kujiandikisha sawa mchaguzi?
Ni chuo cha uzazi, cheti cha mwananchi, kitambulisho cha uchaguzi cha miaka iliyopita kilichotolewa na seni, pasipoti ya mkongomani, kitambulisho cha mwanafunzi, kitabu cha mwisho wa kazi.
Mimi nina kitambulisho cha mpya cha mchaguzi. Mimi nitachagua. Eti nawe?
Voilà, nous revenons à vous, inspecteur Michel Diamba. Vous avez suivi le deuxième groupe d'intervenants. Jean, lui parle du prix déjà communiqué au niveau des écoles qu'il faudrait 1000 francs. Je ne sais pas si vous avez cette information. Il y a cette inquiétude que les bulletins, pourquoi les imprimer à l'étranger? Et puis, notre ami Omar qui est revenu sur la question d'actualité avec l'examen d'État pour savoir si cette fois-ci, on peut ouvrir la brèche quand même pour en parler, hein, s'il y a les stratégies pour éviter qu'on ait ce qu'on a toujours dénoncé ou soit évoqué qui a l'examen en circulation avant la date de passation des épreuves. Monsieur l'inspecteur, vous êtes avec nous?
Oui, monsieur Pierrot, merci beaucoup.
Voilà.
Merci, notre dernier intervenant parle d'une idée salvatrice. C'est à nous de la soutenir. La soutenir par un bon comportement physique et moral. De toute façon, nous devons tous la combattre. Nous sommes citoyens de ce pays. Ce n'est pas seulement le fait des enseignants et des autres, les parents, la société civile. Nous devons nous liguer comme un seul homme pour combattre la contrefaçon et décourager les contrefacteurs. Donc c'est un combat que nous devons tous mener. Ces parents qui favorisent l'achat des faux bulletins, ils doivent être conscients qu'ils, lorsque l'enfant a échoué, n'a pas bien travaillé au cours d'une année, il peut reprendre. Ce n'est pas la fin du monde lorsque l'enfant reprend une classe. Mais les parents, aujourd'hui, ne veulent pas entendre parler des échecs scolaires. Que les parents prennent conscience à ne pas faire le contrefacteur. Et que nous aussi, la société, la famille, nous puissions décourager ce contrefacteur-là. Pour ce qui est du prix, c'est une décision qui est au-dessus de mon autorité. Bon. Je crois que l'intervenant de tout à l'heure, nous prenons son intervention à considération. Nous allons devoir la transmettre à la hiérarchie.
Ok.
Monsieur Panga avait dit que le palmarès était suspendu. On n'a pas suspendu le palmarès. Le palmarès existe bel et bien. Quand vous regardez notre calendrier scolaire, vous verrez que parmi les tâches, les activités à réaliser par le chef d'établissement à la fin de l'année, il y a le rapport de l'année, il y a le dépôt du palmarès. Les palmarès sont bien déposés au niveau de chaque sous-division, au niveau des inspections principales provinciales et au niveau du secrétariat général et de l'inspection générale. Les stratégies pour ce qui est de l'examen d'État. Vous savez, l'examen d'État, c'est toujours le qui fait des mythes et des illusions. On peut bien vous dire qu'il y a une fuite, mais quand vous prenez ces questionnaires-là, vous les confrontez à nos matrices, c'est tout à fait autre chose. Et s'il y a fuite, effectivement, pourquoi est-ce que nous avons 600 000 candidats à l'examen d'État? Pourquoi est-ce que tous les 600 000 ne réussissent pas? C'est que
il n'y a pas fuite. Donc ce sont des, comme les contrefacteurs, des imposteurs qui, à l'approche de l'examen d'État, se mettent à fabriquer des fausses questions, aller vers les élèves, aller vers les chefs d'établissement pour les buter. Donc tout ce que moi je peux demander à ceux, c'est que les parents, les chefs d'établissement soient vigilants face aux contrefacteurs, aux imposteurs. Mmh. Nous prenons toutes les dispositions possibles pour pouvoir sécuriser l'examen d'État. Mmh. Pour votre information, ces examens sont composés en plusieurs batteries et en plusieurs séries à travers la province, à travers la République. En 2013, le taux de réussite était de 47%. Il y avait fuite, il y avait faute. Les élèves allaient réussir à 100%. L'année qui suivait, nous étions à 54%. Et l'année dernière, nous étions à 60% de réussite. Et s'il y a fuite, il serait 100%. Tout le monde réussirait. Donc, c'est un problème d'imposteur qui s'improvise à un certain moment. Un vendeur de fausses questions, ils prennent les anciennes questions, ils changent l'année 2016 à 2017. Et ils sont en train de rouler les parents. Donc, c'est les parents et les chefs d'établissement que l'opinion, elle est bon, qu'ils dénoncent ces gens-là. Mmh.
Voilà. Mais on sait aujourd'hui si on peut garder encore cette brèche ouverte pour l'examen d'État qui a des cas d'insécurité survenus au Kasaï. J'ai été en train de discuter tout à l'heure avec le ministre avant l'émission où il donnait des garanties que jusqu'à ce moment on est sûr que l'examen va se passer à travers les pays sans problème et qu'en cas de problème on peut bien le récupérer. On peut avoir ces garanties.
Oui, nous restons ouverts face au comité provincial de l'examen d'État, c'est-à-dire le ministre provincial, le directeur provincial, le directeur principal provincial. Ils n'ont qu'à voir l'état d'avancement des matières, ils n'ont qu'à voir leur calendrier scolaire. Il y a des jours au cours desquels les enfants n'ont pas sérieusement étudié, ils peuvent nous faire une proposition pour que nous puissions organiser dans le temps et au moment voulu, une session spéciale. Nous l'avons déjà fait plus d'une fois dans certaines provinces. Oui. Donc, il appartient au moment où nous parlons au comité provincial qui organise l'examen d'État de nous saisir, de nous faire des propositions. Et du moins, pour la dissertation, ce n'est pas en classe de sixième qu'on apprend à rédiger une dissertation. L'examen de dissertation est déjà de toutes les provinces, y compris le Kasaï et le Kasaï central. Les élèves pourront passer leur examen de dissertation parce que ce n'est pas ainsi qu'on apprend la dissertation, je vous l'ai dit. Mm-hmm. Pour ce qui est de la session ordinaire, il faudra que cette commission se mette à table pour voir l'état d'avancement du programme. Si le programme n'est pas achevé, ça ne sert à rien d'amener ces jeunes gens à l'examen d'État avec un programme inachevé. Le ministère, à travers son service technique régional, est en mesure de pouvoir préparer une session spéciale le mois venu pour que ces enfants présentent leur examen dans de bonnes conditions. Nous sommes suffisamment armés, on a plusieurs batteries d'examens, plusieurs séries. Notre banque du thème est suffisamment alimentée, il n'y a pas de problème, monsieur le journaliste. Mm-hmm. Nous sommes en mesure d'organiser une session spéciale pour ces provinces déchirées par le désordre, et une occasion pour moi de présenter mes sentiments de compassion à tous ces parents, tous ces compatriotes, les parents, les élèves et les enseignants qui aujourd'hui sont en dehors de leur salle de classe.
Merci beaucoup. On va écouter l'ingénieur Batier qui est à Kisangani, Félicien à Kinshasa. Je rappelle encore que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Gaston Moussemena, tient à l'uniformisation des bulletins scolaires sur l'ensemble de la RDC à la fin de cette année. Vous avez suivi le débat. Plusieurs personnes saluent l'initiative, mais les autres estiment qu'il y a un grand défi à relever par rapport à l'immensité du pays et à la possibilité de rendre ces bulletins disponibles à la fin de cette année pour ne pas préjudicier les écoles. Mais la brèche a été ouverte tout à l'heure par Omar autour de la question de l'examen d'État. Ingénieur Batier, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Radio Capu. Je salue d'abord tous nos compatriotes qui nous suivent partout au pays et à l'intérieur et à l'extérieur. Et je salue aussi l'inspecteur qui est aux stations. Je voulais juste poser d'abord une question à notre invité qui est avec vous au plateau. Est-ce qu'il peut nous dire d'abord, nous avons combien d'effectifs des élèves qui étudient ici au niveau de la RDC? Et il y a combien des écoles qui sont opérationnelles? Là, je parle des écoles primaires, maternelles et secondaires au niveau de l'étendue de la République démocratique du Congo et aussi les écoles qui œuvrent à l'extérieur du pays, dans les pays limitrophes. Nous avons des écoles congolaises qui fonctionnent là-bas. Moi, je pense qu'avec ces statistiques, que l'invité d'abord doit nous dire que nous avons au Congo, nous avons pour cette année 2016-2017, nous avons un effectif de autant des élèves qui sont en cours. Et nous avons autant des écoles. Parce que, monsieur le journaliste, ce qu'ils sont en train de dire là, ici à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose que nous ne croyons même pas à ça, parce que il y a une prolifération des écoles ici. Donc, comme la vie est devenue très difficile, chaque citoyen, il voit qu'il n'a plus à quoi faire, il va créer son école privée, même dans sa maison, il fonctionne. Et question de bulletin, là, moi, je dis que ici à l'intérieur, parfois, les écoles, il y a les enfants qui sont inscrits dans les écoles sans bulletin. Donc, moi, je pense que le gouvernement devait d'abord prendre la responsabilité de réorganiser le secteur de l'éducation, c'est-à-dire que prendre en charge les enseignants et mettre la sécurité dans le pays. Si à ce moment-là, ils peuvent maintenant prendre des dispositions de régulariser toutes ces histoires-là. Mais sinon, dire qu'ils vont mettre les bulletins qui seront uniformes, là, c'est très difficile parce que si nous voyons, dans la région, il y a les directeurs des écoles privées, les promoteurs là. Ils font des trucs privés, ils passent dans les cyber, ils impriment ces bulletins, ils passent et distribuent dans les écoles. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici, mais nous estimons
Mais c'est pour cela, ingénieur Mathieu, que le ministère a estimé qu'au lieu de laisser chaque école imprimer le bulletin de sa manière, autant mieux avoir un bulletin sécurisé, comme ça l'enfant ne peut pas pouvoir se présenter dans une autre école, dans une classe supérieure avec un bulletin fabriqué dans la rue. Mais votre inquiétude, c'est au niveau des effectifs, hein, l'ensemble de les élèves que nous avons à travers le pays, les écoles à RDC à l'extérieur. Si on a la maîtrise de ces effectifs, on sera aussi à mesure de pouvoir distribuer ces bulletins à travers le pays. Vous voulez savoir si exactement au niveau de l'inspection, on a la précision de ces chiffres. Merci beaucoup. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Félicien. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Allô?
Oui, vous êtes sur les antennes, Félicien.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi à l'invité.
Oui, on vous écoute.
Oui, Pierrot, je pose la question de savoir si ces bulletins sont imprimés avec l'argent de l'État ou bien c'est toujours les pauvres parents qui doivent payer les prix de tout ça. Et puis, je ne sais pas si cette opération pourra continuer dans l'avenir parce que vous connaissez le système chez nous. Quand un autre ministre viendra, il trouvera pas son compte dans les commissions et il va arrêter l'opération et puis après on va revenir encore au système antérieur et puis ainsi de suite. Et puis moi je pense pas que si on veut combattre la fraude, c'est par les bulletins qu'on peut le faire. C'est organiser des systèmes d'information et des systèmes de communication entre les écoles, comme quelqu'un a parlé du palmarès qui existait avant. Et aujourd'hui, avec l'informatique, on pouvait encore mieux faire. Alors, je vois pas pourquoi on va chercher des solutions parfois qui ne vont même pas loin. Et aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi on doit acheter les bulletins, mais un enfant qui a acheté le bulletin, vous avez l'État à 80%, 70%, mais celui qui a étudié normalement n'arrive pas à avoir même 55%. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le bulletin qu'on doit changer ou bien on doit organiser les choses autrement? Moi, je pense que ça soit vraiment une solution, mais voulais voir si vraiment ça peut donner des résultats dans l'avenir.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez pour, d'abord, vous avez l'inquiétude pour savoir si c'est au niveau du trésor public que la dépense a été opérée ou le poids pourra être porté par les parents. Mais une autre préoccupation aussi, c'est la pérennisation de ces projets. Vous estimez que vous avez peur de voir peut-être avec des changements dans les temps à venir que les projets soient arrêtés par un autre ministre. Il faut que ça continue. Mais la sécurisation pour vous doit être d'une manière globale, pas seulement la question de bulletins. On reste à Kinshasa avec vous, bienvenue. Vous avez suivi hein, les uns et les autres. Comment on peut arriver alors à sécuriser vraiment cette opération bienvenue pour que ces bulletins contribuent réellement à la mission pour laquelle ils ont été imprimés au niveau du ministère. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, j'ai suivi les listes avec vous. Attention, c'est un sujet très intéressant. Moi, je pense que hier, nous sommes nés pendant la Deuxième République, là où on ne parlait même pas de la révolution de la modernité. Nous, on imprimait les examens à travers les textes, les bons sorts. Aujourd'hui, avec la technique qui est avancée, et je sais une chose, hier, on appelle ça ma peau. Aujourd'hui, nous avons la Sénapi, qui n'est
Et bienvenue. On a des petits soucis, hein, des lignes avec vous. La liaison entre votre téléphone et le studio nous pose des petits soucis. Vous étiez en train de réfléchir autour de ce qu'il faut faire aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme technologie, mais malheureusement on ne pourra pas aller plus loin. Peut-être si vous vous déplacez un tout petit peu. En attendant, nous demandons à l'inspecteur Michel Djamba de pouvoir réagir hein, à ces quelques inquiétudes, mais aussi des petites questions les questions qui ont été posées. Je crois bien. Et d'abord, on retourne à bienvenue. Je crois que c'est bon. En attendant, bienvenue. Vous pouvez terminer votre intervention.
Allô.
Oui, c'est bien. Bienvenue. Vous pouvez terminer votre intervention.
Oui. Je disais. Aujourd'hui, nous avons la Sénapi, qui est une institution de l'État censée imprimer, en dehors des bulletins, même tous les objets classiques qui peuvent donner la solution à un problème tout à fait national. Alors, pour mon point de vue, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, le problème, c'est qu'il n'y a pas la notion de continuité de l'État. La Sénapi est là, et c'est la Sénapi qui est censée. Mais tous les bulletins et autres objets plastiques à travers tout le pays. Moi, je pense qu'il faut décentraliser cette opération. Donner la chance à tous les gouverneurs du pays, leurs inspecteurs provinciaux, et nous avons dans notre pays la politique. Sur le plan de l'enseignement primaire et secondaire, il y a les écoles conventionnelles catholiques, protestantes, hispanistes, islamiques et les écoles privées. L'inspection générale, l'inspecteur est là, comme il est invité, il peut nous donner exactement pour cette année. Nous avons autant de millions d'élèves qui sont scolarisés. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant chez nous? Le ministre qui arrive ne veut pas continuer avec les programmes qu'il a trouvés sur la table. Il préfère créer maintenant son propre programme. Il y a question des pourcentages. Au moment où nous parlons, la Sénapi, réhabilité, il a les machines. Si la Sénapi ne sera pas d'imprimer 25 millions, c'est à la Sénapi, à travers le ministère du budget, enseignement primaire et secondaire, et je ne sais pas quel autre ministère, ils doivent travailler en collaboration pour que cette opération soit canalisée et que l'argent entre dans la caisse de l'État. Par exemple, j'ai été piqué la semaine dernière lorsqu'on nous disait qu'un passeport coûte 185 $ et que l'État congolais ne perçoit que 65 $. C'est vraiment humiliant. Alors moi, je pense à mon humble avis et nous avons une institution de l'État congolais qui est opérationnelle. Si les machines ne seront pas en mesure d'imprimer 25 millions d'ici le 2 juillet, la date de la fermeture, moi je pense que c'est à la Sénapi de trouver d'autres partenaires étrangers pour que l'opération soit quand même canalisée. Maintenant, c'est la guerre des successions. Le ministre qui est
merci. Merci, merci beaucoup, merci, bienvenue. Vous estimez qu'il fallait confier cette mission à la CENAPI, et décentraliser d'ailleurs l'impression des bulletins, permettre à chaque province de pouvoir imprimer, quitte à avoir un modèle unique. Mais vous êtes aussi revenu sur cette question qui a été posée à notre invité par rapport à la maîtrise des effectifs à ce jour. Monsieur Michel Diamba, vous avez suivi encore les interventions de ses compatriotes. Quel est votre point de vue?
Oui, merci beaucoup. Je réponds à notre ami Mathieu de Kisangani. Les statistiques, nous les avons de toutes les 30 divisions provinciales. C'est sur base de ces statistiques que nous avons procédé à l'impression de 20 millions de bulletins. C'est-à-dire, nous avons quelque chose comme 17-18 millions d'élèves, de la maternelle jusqu'au secondaire général, toutes les options confondues. Aussi une petite marge, c'est ce qui nous amène à ces 20 millions. Donc nous n'avons pas procédé au hasard, hein, on n'a pas inventé ces chiffres. Nous avons des statistiques, nous avons toute une direction chargée des statistiques scolaires qui nous donne des effectifs en termes de nombre d'écoles, nombre d'enseignants, nombre d'élèves. Nous avons un outil de travail dans ce sens-là. Il y a des inquiétudes, il n'y a pas d'inquiétude, ce sont des statistiques fiables. Monsieur de Kinshasa, Félicien, bon, je le trouve assez négatif, c'est celui, tout ce qu'il dit là ne l'engage que lui-même. Mais quant à la pérennisation, nous avons pris des mesures pour pouvoir pérenniser cette opération, parce que l'année prochaine, on ne va pas inventer la roue, ce sont les mêmes maquettes de bulletins qu'on va mettre à l'impression. Donc nous avons conçu des maquettes avec ces logos portant des armoiries, avec différentes mesures de sécurité. Ce sont les mêmes maquettes que nous allons utiliser l'année prochaine. Donc ce n'est pas une mesure pour cette année seulement. Donc ça va continuer, ce sera pour toutes les années à venir. Bon, monsieur Bienvenu, lui il parle de SNAPI. Bon, SNAPI, c'est un celui du ministère du budget, mais qui a montré ses limites quelque part. Quand j'ai parlé de difficultés conjoncturelles, c'est par rapport à SENAPI. Nous lui donnons le temps de pouvoir se réorganiser. Le moment venu, nous allons remettre le partenariat avec lui, il n'y a pas de problème. Il parle aussi de la décentralisation. Décentralisation, ça revient encore à ce que nous décrions aujourd'hui, l'impression selon plusieurs modèles, des quantités qu'on ne saura pas contrôler. Et ça fera encore des bulletins parallèles. La province, avec ses bulletins, vous voyez que ça va encore nous ramener à la case de départ. Au moment où nous voulons revenir à la norme, avec un modèle unique remis à toutes les écoles de la République.
Donc, oui.
Et nous ramener plus en arrière.
Voilà. Mais monsieur l'inspecteur, permettez qu'on vous écoute les deux derniers auditeurs de cette émission. On va revenir à vous pour la conclusion. Nous avons Trésor qui est à Kikwit et Ismaël Alboumbashi. Trésor, merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur Pirot. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Trésor.
Ok, merci. L'idée est bonne. Mais cependant, je voudrais un peu demander à l'inspecteur général. Nous savons que ça fait des années ici, il y a des promotions à l'examen d'État qui ont payé les frais de participation et les frais d'impression des diplômes, mais les diplômes ne sont pas arrivés. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec cette situation de bulletin où les parents vont payer l'argent tout consort et au finish, les élèves n'ont pas de bulletin? Hein? Si vous regardez même plus loin, même à l'enseignement supérieur, on paie les frais d'entérinement des diplômes, mais c'est question seulement de vous renseigner combien de ceux qui ont déjà fini ont déjà reçu leur diplôme. Mais je pense que l'idée peut être bonne, mais ça sera irréalisable. Surtout qu'on a chaque jour un nouveau gouvernement, un nouveau ministre, et chaque gouvernement ou ministre vient avec ses intentions et répare avec ça. Je pense que l'idée, ça n'ira pas avec notre pays.
Merci beaucoup, Trésor. Vous inquiétez, hein. C'est la question. Peut-être notre invité pourra nous donner la réponse autour de l'impression des diplômes. Ça fait quand même longtemps, hein, depuis 2012, je crois très bien, qu'on n'a pas été, les diplômes n'ont pas été imprimés au pays. Et vous avez peur que ça soit comme ça avec le bulletin dans les jours à venir. Là, il faudrait avoir des garanties, comme le disait tout à l'heure l'invité, des garanties vraiment que l'opération soit puisse être pérennisée. On va terminer avec vous, Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Pierre Lamekki, bonjour à tout le monde.
Mm-hmm. On vous écoute Ismaël.
Mon point de vue, je remarque qu'il y a deux domaines qui sont plus négligés par le gouvernement. Disons que ces domaines ne sont pas du tout bien contrôlés. À force que cette initiative est la très meilleure des solutions qu'on peut avoir. Mais le problème de la difficulté se pose chacun des ministres qui entre sur sa modèle de chaque chose de sa façon. Mais le problème c'est quoi? L'élaboration de ce bulletin, parce qu'aujourd'hui, faire enseigner un enfant, soit ici à Lubumbashi, soit à Kinshasa, ça prend quand même un milieu provincial. Mais c'est tout à fait difficile, mais parents ne choisiraient jamais que son enfant échoue. C'est clair. J'ai vu même un enfant du préfet qui disait qu'il ne mettait pas le débrouillardisme quand il est allé au niveau de l'enseignement supérieur. Il ne peut même pas se retrouver parce qu'il ne peut pas aller mentir aux enseignants. Maman a dit ceci ou papa a dit ceci, on lui donnait les points. Parce qu'on a cette liberté aujourd'hui, notre niveau d'enseignement aujourd'hui est par terre et on ne nous apprécie jamais. Mais si on va avoir une modalité pour tout enseignement, ça peut aller. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous ne remarquons même pas l'idée des écoles publiques. Nous pensons que les privés font tout à leur niveau. Ils ne sont pas contrôlés. Le problème se situe sur le système de contrôle. Si on a un contrôle, on ne peut jamais avoir l'uniforme. Chaque école a sa modalité d'uniforme. Ça ne peut pas aller. Même le bulletin, on ne contrôle rien. C'est ça le problème.
Oui, mais Ismaël, parce que vous avez évoqué les bulletins. Ismaël, parce que vous avez évoqué les bulletins. S'il vous plaît, Ismaël. Oui, Ismaël, parce que vous avez évoqué. Oui. Ismaël, parce que vous avez évoqué les bulletins, c'est pour cela que la décision a été prise, qu'on puisse avoir un modèle unique à travers le pays. Quant à la question des uniformes, hein, ça a été évoqué plusieurs fois que dans l'émission Parole aux auditeurs, les couleurs des fois qui se différencient, soit les bleus, blancs, mais avec des bandes rouges, bleues, jaunes, tout ça, on pourra voir. Merci beaucoup aux uns et aux autres, vous avez été nombreux. On revient à vous, inspecteur Michel Diamba. On va clôturer cette émission par là, la question des bulletins, mais aussi un mot qui a été évoqué, c'est par rapport à l'examen d'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour clôturer cet échange?
Par rapport au bulletin, notre ami Trésor a des inquiétudes. L'état de diplôme d'État. Il faut faire une distinction entre le diplôme d'État et le bulletin. Le diplôme d'État, un titre scolaire, on ne peut pas l'imprimer n'importe comment, il y a des normes, il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans l'impression des titres scolaires, aussi bien à l'école secondaire qu'à l'université. Tandis que le bulletin est de donner des pièces scolaires. Ça, nous donnons toutes les assurances que, à partir de cette année jusqu'aux années à venir, l'inspection qui est un service technique du ministère va devoir livrer le bulletin dans les délais et à temps voulu. Notre ami Ismaël de Lubumbashi va parler de tout et de rien, du contrôle, des uniformes. Bon, il n'a qu'à voir le chef de division provinciale pour poser toutes ces questions et avoir de la lumière. Pour ce qui est de l'examen d'État, j'en profite pour informer l'opinion que l'examen hors session, dissertation et jury pratique aura défense va bel et bien lieu ce mardi 2 mai. Toute l'étendue de la République. Nous avons aligné pour cette année 630 062 candidats répartis dans 1844 centres, donc 1841 sur le territoire national, et 3 centres hors frontières, Luanda, Kabinda et Zenio à RCA. Pour ce qui est du cycle court, nous avons 5 070 candidats répartis dans 289 centres.
Merci.
Et profitons de ce micro de radio pour souhaiter aux uns et aux autres bonne chance à l'étape hors session de l'examen d'État. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Michel Djamba. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'inspecteur général de l'EPSP. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Merci à André Mongou qui était à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation, Pierrot et la Meji. Et parole aux auditeurs, on se retrouve demain à 11h03, heure de Kinshasa. Passez d'agréables moments en compagnie de Radio Capi. Merci à Martin Sebujangwe qui a supervisé ce programme. Au revoir.